Donc, je suis ici avec Louis-Philippe Rondeau. Louis-Philippe, tu es professeur à l'école Nadukak et tu es membre co-chercheur Hexagram. Et tu as présenté un artist talk hier pour le panel de Electra à ICA 2025. Est-ce que tu pourrais nous introduire, pour les gens qui nous écoutent, à ta pratique?
Oui, je suis artiste depuis autour de 2018. Je fais des installations interactives qui utilisent souvent des procédés photographiques un peu désuets pour pouvoir représenter les gens d'une manière un peu différente. Et je fais des installations qui sont assez ludiques et j'essaie d'orienter mes installations vers le grand public pour faire de trouver des manières différentes de représenter les gens et de les impliquer dans mes œuvres.
Pour ça, tu utilises souvent une technologie qui s'appelle SlitCam?
Oui, le SlitScan, voilà. C'est une technologie, c'est un procédé photographique qui date du 19e siècle, où est-ce que traditionnellement, c'était juste un bout de pellicule qui passait en arrière d'une petite lisière qui laisse passer la lumière. Et ce que ça permet, c'est d'étirer la photographie dans le temps. Donc, on est capable d'avoir différentes temporalités à l'intérieur d'une même image. Puis, quand on l'explique, ça a l'air vraiment compliqué, mais quand les gens voient le résultat, c'est super intéressant. Ça donne une image qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Ça a tendance à déformer les gens, mais pas dans l'espace, plutôt dans le temps. Et donc, ça fait des images qui sont très intéressantes, différentes, et c'est une manière assez particulière de se voir. C'est comme un miroir déformant dans le temps.
Ce qui est vraiment intéressant, parce que l'image de soi est en elle-même, en tant que concept, une déformation. Quelque chose qui est toujours distorsionné par rapport à la perception qu'on peut en avoir. Et donc, je trouve vraiment intéressant aussi l'approche ludique, étant donné qu'il s'agit aussi, tu travailles aussi dans la recherche-création qui peut être relativement nichée pour le grand public. Comment tu adresses, en fait, cette transition?
Ben moi, ce que je trouve intéressant, c'est on a l'habitude de se voir en image. Et ce qui est drôle, c'est qu'en ce moment, on opère vraiment un contrôle sur notre image, du moins ce qui est présenté sur les médias sociaux. Et les installations que je propose, ça implique une certaine perte de contrôle. Donc, ça va faire des caricatures distorsionnées dans le temps. Puis, il y a beaucoup de gens qui aiment pas le résultat parce que ça implique nécessairement on sait pas exactement ce que le produit va être au niveau de l'apparence. Mais d'un autre côté, ce qui est super intéressant, c'est que si on décide de se laisser aller puis de s'abandonner au dispositif, ça permet de se voir autrement. Puis aussi, le côté ludique vient du fait que c'est pas sérieux les images qui sont produites. Tu sais, on est capable facilement de créer une créature à deux têtes, huit pattes qui se dédouble. Puis il y a quelque chose qui est amusant là-dedans. Moi, le gros plaisir que j'ai à présenter mes œuvres, c'est de regarder comment les gens rient, comment ils s'esclaffent, ils se laissent aller, ils vont danser, ils vont créer des chorégraphies spontanément devant mes installations. Et moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve pas assez dans les espaces d'exposition et les espaces muséaux. C'est la possibilité pour les gens de s'exprimer puis de vivre une émotion qui est vraie et spontanée.
Et je te réponds sur la question du corps et du corps vivant dans tes installations. L'année dernière, notamment, tu as prêté à faire une transposition de cette technologie que tu mobilises dans ta pratique avec les élèves du préparatoire de l'École de cirque de Verdun à Montréal, qui l'ont utilisé notamment pour créer leur spectacle de fin d'année. Comment était cette expérience pour toi?
J'ai trouvé ça intéressant de travailler avec des gens de cirque. Parce que c'est pas un milieu que je connais nécessairement, et les arts vivants, les arts du spectacle, pour moi, c'est quelque chose qui exerce beaucoup de fascination. Je sais qu'en ce moment, il y a une grosse pulsion pour les gens qui font des arts de la scène et du cirque de se réinventer avec des outils numériques. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est trouver une manière de présenter les gestes, les chorégraphies, les acrobaties qu'ils font en cirque, mais d'une manière qui serait différente, mais pas non plus intrusive, tu sais, qui laisserait quand même la place aux performeurs qui prendrait pas le dessus sur la performance circassienne. Donc de ce côté-là, moi c'est une collaboration. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris les outils que je développe habituellement, puis j'en ai fait une version qui est plus facile à utiliser, qui est avec des plusieurs possibilités de représenter l'image de différentes manières, et ça permet aux gens qui sont derrière la scène rapidement de changer l'apparence de l'image, de s'adapter aux différents gestes des artistes de cirque. Et je trouve que c'est une manière de bonifier le spectacle, mais sans nécessairement dénaturer la performance originale.
Bon, je vais revenir maintenant à ta dernière réponse. En fait, tu as parlé des réseaux sociaux aussi et de la quantité et de la qualité des images qui circulent dans les réseaux sociaux. Et justement, tu as parlé de travailler à partir de ces images-là dans ton talk que tu as donné hier. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu plus?
Oui. L'installation que je propose, la toute dernière que j'ai faite, s'intitule L'Abîme. Et ça s'appelle L'Abîme parce que j'ai souvent l'impression que les médias sociaux, c'est un gouffre sans fin où est-ce qu'on se perd. Et cette idée-là d'abîme, c'est un peu paradoxal parce que moi, je suis vraiment pas un gros utilisateur de médias sociaux et je suis considérablement critique. J'ai décidé de me plonger il y a quelques mois dans l'abîme de TikTok, voir de quoi il s'agit, puis est-ce que c'est vrai qu'on s'y perd. Et j'ai pu constater que surtout quand on approche cette plateforme-là, on se fait exposer rapidement à de la désinformation, à du contenu, peut-être pas haineux, mais du contenu qui est vraiment très délétère. Et aussi beaucoup de contenu insipide, c'est ce qu'on appelle familièrement le brain rot. Beaucoup de contenu aussi qui est généré par l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle familièrement le AI slop. Et je me suis dit, ben il y a quelque chose à faire là-dedans. J'avais le goût de réinterpréter ce contenu-là, mais essayer de faire du beau avec du laid. Donc j'ai créé cette installation là et j'ai décidé de la mélanger aussi avec un effet miroir, une caméra. Donc quand il y a personne devant l'installation ou quand les gens sont plus éloignés, on voit les images qui proviennent en direct des médias sociaux se faire transformer en quelque chose de très poétique avec une ambiance sonore qui l'accompagne. Et quand on s'approche, ben là c'est notre image qui est transformée. C'est comme une métaphore pour dire que quand on utilise les médias sociaux, on participe et on enrichit essentiellement on nourrit l'algorithme. Donc c'est pas de la consommation qui est détachée, mais on est en train d'encourager activement ces plateformes-là à essentiellement moi j'ai l'impression que ça essentiellement à nous pourrir le cerveau potentiellement, dépendamment du contenu qu'on décide de regarder. Donc, j'avais le goût de faire une critique un peu virulente des médias sociaux à travers l'abîme.
Et si je comprends bien, c'est la première fois où tu fais une critique directement adressée aux réseaux sociaux ou aux médias des réseaux sociaux avec ton travail?
Oui, c'est la première fois que je fais une critique des médias sociaux, mais en même temps, je voulais pas faire quelque chose de virulent ou de réprimander les gens d'utiliser les médias sociaux, parce que on s'entend que les médias sociaux, c'est pas entièrement négatif. Donc, je me suis dit, j'allais faire quelque chose de drôle, de rigolo. Et jusqu'à présent, je trouve ça super intéressant de voir les gens qui reconnaissent des images, comme par exemple les images qu'on appelle traditionnellement le brain rot, c'est des personnages qui sont un peu étranges générés par l'intelligence artificielle. Quand les gens ils reconnaissent ces éléments-là, mais ils voient qu'est-ce que ça donne transformé à travers le dispositif, ça les fait toujours rire. Fait que le tout se fait dans l'humour et la bonne humeur, parce que j'ai l'impression que de dénoncer et de critiquer les comportements des gens, c'est pas nécessairement ce qui va les encourager à changer leur comportement. À l'inverse, moi, ce que je veux, c'est susciter une réflexion pour dire que les médias sociaux sont peut-être pas aussi anodins qu'on pense.
Donc, le dispositif est une sorte de mise en abîme pour l'abîme.
Exactement. Puis c'est le titre que j'ai trouvé, l'abîme. D'ailleurs, je suis tombé sur une citation de Nietzsche qui disait que si on se plonge trop longtemps dans l'abîme, l'abîme, elle nous regarde aussi. Ma traduction est peut-être pas très appropriée, mais essentiellement, dans le contexte de ce que Nietzsche disait, c'est si on observe trop longtemps notre ennemi, on va finir par le devenir. Puis je trouvais ça intéressant parce que c'est comme quand on parle des médias sociaux. Les médias sociaux, veut pas, vont éventuellement transformer notre pensée. D'ailleurs, c'est un outil de propagande reconnu, les médias sociaux. Et donc, c'est un petit peu de voir, d'apprécier l'influence que les médias sociaux ont sur nous et leur côté qui est peut-être un peu délétère, mais sous la forme, c'est sous le déguisement d'un divertissement qui a l'air tout à fait inoffensif.
Et ça me ramène, ça me fait penser aux dernières phrases qui étaient affichées sur l'écran de ta présentation hier au Artist Talk, que je trouvais très puissante et que je trouvais importante à mentionner aussi, et j'aimerais t'entendre développer un peu par rapport à ça. Ta présentation finissait avec les phrases « Finding beauty in the absurd »,« Fighting the war on attention » et « Not feeding the algorithm ».
À travers cette exploration-là, parce qu'on s'entend que c'est une recherche-création, quand je me suis engagé dans la création de cette œuvre-là, j'avais pas l'intention, au début, c'était vraiment dans un mode un peu plus exploratoire, puis je me suis rendu compte à travers mes explorations sur les médias sociaux qu'il y avait moyen de transformer la laideur en beauté. Puis je me dis, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. J'ai rien contre les œuvres d'art qui critiquent, c'est qui font une critique virulente des problèmes de la société, mais à l'inverse, moi j'aime ça le faire dans la bienveillance et essayer de trouver la beauté dans les choses qui sont peut-être un peu moins belles. Donc c'était ça à l'origine de mon approche, que les gens aient du plaisir à utiliser l'installation ou à aborder l'installation et que peut-être ça fasse germer le début d'une réflexion sur les médias sociaux. Ensuite, quand je dis fighting the war on attention, ben on s'entend que en ce moment toutes les plateformes, tous les médias se battent pour avoir notre attention, et je trouve que les installations interactives et les expositions dans les musées ont leur rôle à jouer parce qu'ils permettent aux gens de sortir de leur quotidien avec leur réseau habituel et de s'exposer à de nouvelles idées dans un environnement autre. Donc, c'était un petit peu mon modus operandi quand j'ai créé cette installation. Et d'ailleurs, quand j'ai créé les autres également.
Puis la dernière, c'était « Not feeding the algorithm ». Justement, je fais le lien entre les deux parce que l'attention algorithmique est un type d'attention dans l'économie de l'attention, selon Yves Citon, d'ailleurs.
Oui, mais « not feeding the algorithm », je trouve ça intéressant parce que, ben, premièrement, il y a une métaphore directe de quand on se présente devant l'installation, elle nous transforme comme elle le fait avec les images provenant des médias sociaux. Donc, ça nous fait réaliser que nous, on participe à nourrir l'algorithme, même en consommant le contenu. Une des choses que j'ai réalisées qui était assez frappante, c'est quand j'ai décidé d'aborder les médias sociaux, tout particulièrement TikTok, je les ai abordés à partir de zéro, sans nécessairement me créer de compte, sans nécessairement aussi dire que j'avais des intérêts particuliers, et j'ai décidé de regarder du contenu de manière complètement aléatoire et algorithmique. Et rapidement, les algorithmes se sont mis à me présenter du contenu qui était de plus en plus étrange. Il y avait aussi de la propagande, du contenu politique, Il y avait du contenu aussi religieux, un peu extrémiste. Et j'ai trouvé ça assez frappant que rapidement, l'algorithme est passé de contenu anodin à des choses qui étaient beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus de propagande. Puis c'était très très subtil parce que ça variait entre des vidéos de maquillage et de beauté à des vidéos qui essentiellement étaient très politique, chargé, rempli d'intelligence, d'images générées par intelligence artificielle qui étaient fausses. Et puis je me suis dit, c'est facile de tomber, on dirait en anglais, c'est to fall down the rabbit hole avec ces plateformes-là, en faisant de manière tout à fait sournoise, seulement en regardant du contenu.
Justement, tomber dans son sort de abîme.
Exactement. Infini.
Et comment tu penses que ça, cette thématique peut résonner avec les contextes ICA 2025, ici à Séoul?
Je trouve qu'à ICA, ici, ben, premièrement, ce qui illustre ICA, c'est la diversité, parce qu'il y a des gens qui viennent de travers le monde, et aussi, il y a une pluralité des approches. Je ne sais pas si mon contenu résonne nécessairement avec ICA, mais ça vient contribuer à l'étendue de la connaissance qui est en train de se développer, de se partager ici. Donc moi, je suis extrêmement flatté de faire partie de ce partage de connaissances-là. Mais on peut pas dire que ICA, c'est ni hégémonique, ni une sorte de pensée dans une direction. Ce qui est intéressant, justement, c'est de s'exposer à la pluralité des points de vue et de pouvoir y contribuer avec notre point de vue à nous.
Tout à fait. Puis, pour finir l'entrevue, mais en même temps ouvrir la question pour les gens qui nous entendent, est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller? Est-ce que tu as vu à date ici à ICA? Est-ce que tu as un particular pick ou un choix ou quelque chose qui t'a interpellé particulièrement à partager avec nous?
Moi, si j'avais une chose à suggérer aux gens, c'est de se laisser emporter par la sérendipité de l'endroit. Il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de performances, de conférences, que des fois, juste essayer d'aller voir des conférences ou des performances qu'on ignore le contenu, ça peut être vraiment intéressant parce que ça peut nous ouvrir les yeux sur des choses qu'on ignorait complètement. Il y a une très grande tentation d'aller voir les choses qu'on sait déjà, qu'on a déjà vues, mais c'est le fun de se laisser surprendre par des accidents heureux, rentrer dans une salle, écouter un talk, une communication dont on ignore le contenu. Moi, je trouve que c'est la beauté de ces événements-là. Et bien évidemment, les rencontres fortuites. Donc, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, puis qui peut-être, potentiellement, vont devenir des collaborateurs éventuels.
Bien, c'est parfait, c'est excellent. Merci beaucoup, Louis-Philippe.
Ça fait plaisir. Merci de m'avoir en entrevue.